dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'infox. De la désinformation sous forme de faux reportages empruntant tous les codes des grands médias nationaux et internationaux, on en parle avec Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI qui nous donnera des indications permettant de ne pas tomber dans le piège. Les attaques cyber se multiplient de la part de cybercriminels, mais aussi d'entités étatiques qui ne se fixent aucune limite. Comment se protéger en démocratie? Comment riposter dans les limites du droit? On en parle avec l'amiral Coustillière, grand architecte de la cyberdéfense française. Enfin, nous retrouverons Monique Ngomayag de l'AFP Factuel à Dakar pour débusquer les rumeurs entourant le marché du cacao. La hausse des cours ne produit pas toujours les mêmes effets selon les pays. Attention aux infox qui se répandent sur le sujet. C'est une technique de désinformation de plus en plus utilisée par la propagande russe. Focus cette semaine sur la fabrication de faux reportages. Ces vidéos maquillées en production journalistique se multiplient sur Telegram et puis les réseaux sociaux ces derniers jours. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Des médias du monde entier sont touchés, la BBC, Euronews, Die Welt, TF1, chaque jour de nouveaux s'ajoutent à la liste. Et parmi les cibles récurrentes, on retrouve aussi RFI et France 24, Grégory.
Oui, le logo en haut à droite de l'image, le style d'écriture, le format, les crédits, tout porte à croire que ces vidéos ont bien été produites par les rédactions ciblées. Mais en réalité, ces contenus usurpent l'identité de médias réputés, qu'ils soient allemands, français, polonais ou même indiens et israéliens. À chaque fois, le même procédé de fabrication est utilisé, une vidéo d'une durée moyenne d'une minute, un texte imitant la charte graphique du média ciblé apposé sur des images d'illustration, le tout sans faute d'orthographe accompagné d'une musique neutre.
Alors, ces contenus trompeurs sont similaires sur la forme, mais aussi sur le fond.
Oui, puisque sur la trentaine de faux reportages que nous avons identifiés, deux narratifs reviennent constamment. L'un dénonce la présence de réfugiés ukrainiens dans les pays occidentaux, les faisant passer pour des criminels, des drogués ou des vecteurs de contamination. L'autre s'attaque aux Jeux Olympiques de Paris et avance à coups d'infox que l'événement va être une catastrophe pour la France. Deux narratifs, on le sait, poussés par la propagande russe depuis plusieurs mois déjà. Et puis l'autre élément commun à ces faux reportages, c'est l'utilisation systématique de citations créées de toutes pièces et attribuées à des politiques, des chefs d'entreprise ou même des médecins.
Qui est derrière cette vaste campagne de désinformation?
Eh bien, si ces infox ne sont pas directement signées, l'analyse de leur circulation laisse peu de doutes sur l'implication directe de la propagande russe. En retraçant l'apparition de ces faux reportages, nous avons pu identifier une petite dizaine de chaînes Telegram russophones à l'origine de 90% de ces productions. L'infox est ensuite reprise par des sites internet russes avant parfois d'être relayée sur les réseaux sociaux de premier plan comme X ou Facebook. Certains cumulent ainsi plusieurs centaines de milliers de vues, un schéma de diffusion typique des campagnes de désinformation russe.
Mais à quoi servent ces faux reportages?
Non seulement à tromper les internautes, à fracturer les sociétés occidentales, mais aussi à attaquer la crédibilité des médias réputés en jetant le doute sur l'authenticité de chacun de leurs contenus. Après les fausses couvertures de journaux, les faux articles de presse, la propagande russe mise aujourd'hui sur ce nouvel outil de désinformation peu coûteux à produire et qui peut faire beaucoup de dégâts.
Alors comment s'en prémunir?
Eh bien, le meilleur réflexe à adopter en cas de doute, c'est de remonter à la source. Si la vidéo est authentique, elle a forcément été publiée par le média en question sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux officiels. Si vous ne la retrouvez pas, attention, c'est possiblement un faux reportage. Dans le cas de RFI, si vous avez un doute sur un contenu estampillé avec notre logo, vous pouvez contacter notre cellule InfoVérif au +33 6 08 94 93 05.
Merci Grégory. Pour en savoir plus sur cette campagne de désinformation massive, rendez-vous sur notre site rfi.fr. Alors, avec notre invité, nous allons revenir sur les moyens employés pour se défendre face à ce type d'offensives informationnelles numériques.
On en parle.
Nous recevons aujourd'hui Arnaud Coustillière. Bonjour.
Bonjour.
Amiral Coustillère, vous publiez chez Talendier le livre « Soldats de la cyberguerre », coécrit avec notre consoeur spécialiste défense Aude Leroy. Le sous-titre permet tout de suite de vous situer. Un pionnier raconte la cyberdéfense française. En effet, entre 2008 et 2017, vous avez été le grand architecte de la cyberdéfense en France. On va revenir dans un instant sur votre parcours. Mais tout d'abord, question définition. Dites-nous, de quoi parle-t-on quand on parle cyberdéfense ?
En fait, vous avez deux interprétations. Vous avez l'interprétation dans le monde civil, donc qui est celle de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous avez la cyberprotection, donc c'est tous les dispositifs que vous mettez pour protéger votre réseau. Et ensuite, vous avez la cyberdéfense, au sens de défense, de lutte informatique défensive. C'est que vous mettez des capteurs, vous mettez des gens qui surveillent et vous réagissez quand vous êtes attaqué. Ensuite, vous avez l'autre définition, qui est celle du ministère des Armées, qui est la défense. La façon dont le ministère des Armées déploie ses moyens dans l'espace numérique, à la fois pour se défendre, mais aussi pour se protéger, se défendre, mais aussi pour attaquer. Donc le titre de mon livre est très clair, hein, c'est « Soldats ». Donc « Soldats », c'est le cadre des militaires en uniforme. « Cyberguerre », la guerre, c'est un cadre juridique particulier, droit international humanitaire. Et ça permet de bien cerner de qui je parle, de quoi je parle, de choses qui ont été sous mon commandement. Parce que de la cyberdéfense au sens offensif, vous avez aussi les services de renseignement qui sont spécialisés dans les actions clandestines. Le ministère des Armées fait des actions qui peuvent être discrètes, mais qui doivent être absolument revendicables par nos autorités politiques et dans lesquelles on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, donc dans lesquelles on n'a absolument pas le même comportement que les autocraties qui s'affranchissent quasiment de tout droit international dans leur façon de d'exprimer leur puissance sur l'espace numérique.
Très bien, ça c'est dit. Par contre, expliquez-nous contre quoi on se protège. La palette des modes d'attaque est-elle toujours plus ou moins la même ? Rançongiciel, phishing, vol ou destruction de données, etc. Ou est-ce que c'est une palette qui est en train de s'étoffer ?
Non, c'est une palette qui est en train de s'étoffer avec des modes d'action de plus en plus innovants. L'attaque informatique, vous avez des attaques techniques. Donc, soit vous faites ce qu'on appelle du déni de service, c'est que vous saturez un objet informatique en lui faisant des requêtes. Donc là, vous le faites tomber, il ne peut plus fonctionner, mais quand vous arrêtez de le saturer, il refonctionne. Le plus courant, c'est les attaques par pénétration. C'est-à-dire que par un moyen quelconque, clé USB, mail piégé ou autre, vous rentrez de façon non autorisée à l'intérieur d'un système et vous vous installez dans ce système. Soit vous vous installez pour très très longtemps, donc là, c'est pour faire de l'espionnage et vous faites en sorte de ne pas être détecté. Vous pouvez espionner, il y a des cas d'exemple ou de sociétés qui ont été pénétrées pendant plus de 3-4 ans. Donc, tout leur savoir-faire a été exfiltré. Soit vous rentrez pour fausser le fonctionnement du système, soit vous entrez pour le saboter de façon plus ou moins rustique. Les cryptolockers que l'on a en ce moment, c'est quand même un outil relativement bas de gamme qui va rentrer, qui va crypter, qui va saboter. Et qui est aujourd'hui l'apanage de beaucoup de groupes cybercriminels et on l'a vu totalement exploser depuis en fait gros la fin du confinement, mais sur ces espèces de prises d'otages informatiques, on avait déjà eu des prémices importantes dans les courants de l'année 2017. L'autre élément extrêmement changeant aujourd'hui, c'est que la couche perception, la couche de la manipulation de l'information, voilà, a rejoint celle de la couche technique. Donc vous avez de plus en plus d'attaques informatiques qui combine les deux, donc beaucoup de désinformation avec un peu d'attaque technique ou beaucoup d'attaque technique avec un peu de désinformation ou un mélange des genres. Donc les malfaisants de toute nature ont de plus en plus d'outils et ces malfaisants sont de plus en plus structurés de façon quasi industrielle sur le dark web ou avec des groupes très structurés où les tâches se répartissent, celui qui garantit l'attaque, celui qui garantit le paiement, celui qui garantit le résultat, celui qui vous vend les données pour le faire, les adresses et ainsi de suite.
Le dark web, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Expliquez-nous de quoi il s'agit, en fait, et qu'est-ce qu'on y trouve ? Des données personnelles mises en vente, tout ça ?
Vous y trouvez tout ce que les malfaisants et les mafieux ont envie d'acheter, en commençant par les armes, la drogue, la pédopornographie, les attaques informatiques, et ainsi de suite. Donc, vous avez une structuration, en gros, je pourrais dire, et c'est structuré un peu par endroits comme Amazon, hein. Vous avez une sorte d'Amazon, des nocifs. Et le dark web, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. C'est quelque chose qui n'est pas référencé. Donc vous n'avez pas de carte. Donc vous avez besoin d'être initié. Donc un peu la cour des miracles. Imaginez-vous la cour des miracles à Paris. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'adresse. Donc vous étiez obligé de passer des endroits où il y avait des sortes de sas ou de gardes, et seuls les initiés pouvaient passer. Donc le dark web, c'est un petit peu ça.
Et c'est tout de même le royaume de l'anonymat aussi.
Oui, il y a des formes d'anonymat qui vous garantissent. Mais à partir du moment où vous faites de l'attaque informatique, comme le font les services de renseignement, vous pouvez arriver à pénétrer des réseaux, et donc rentrer dans les initiés et aller aux endroits qui vous intéressent. C'est de l'enquête sous pseudo. C'est sûr que l'anonymat, on pense être anonyme parce qu'on se cache derrière des VPN, on se cache derrière des choses, mais à partir du moment où des services de renseignement mettent les moyens dans la durée, le renseignement, vous recroisez des différentes sources. Il y a un moment donné, nul n'est anonyme. Quelqu'un, on vit sur Terre. Donc on a une façon, il y a des moyens de recouper les informations. C'est plus long, mais ça existe. C'est comme sur, typiquement, vous m'avez parlé dans la préparation du groupe Sandworm. C'est intéressant, le groupe Sandworm. C'est un groupe qui est d'obédience russe.
Qui est très actif en ce moment.
Oui, qui est très actif, mais qui existe depuis plusieurs années et qui est observé. Les services informatiques, le perturbateur mendiant les connaît, donc il les suit depuis des années. Donc en gros, je dirais, c'est un espèce de groupe de corsaires. Je dirais même pas, c'est pas, même pas des corsaires, c'est un peu comme le Wagner. C'est le Wagner du numérique. Donc ils sont sous obédience du gouvernement et des services de renseignement russes. Ils attaquent en gros les intérêts qui intéressent les services russes, aussi bien de façon informationnelle que de façon technique, en s'affranchissant de toutes les lois. Mmh. C'est ça qui me choque aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de nations qui, parce que c'est le numérique, parce qu'on peut avancer caché, parce qu'on peut difficilement prouver que c'est vous, parce que ça peut prendre du temps, s'affranchissent d'un certain nombre de lois qui étaient bien établies dans les relations internationales.
C'est ce que vous appelez du combat asymétrique, en fait.
C'est quelque chose qui est complètement asymétrique, puisque d'un côté, vous avez les démocraties qui, même si de temps en temps, il y a des incartades, notamment chez nos camarades américains, ont une certaine déontologie.
Et qui sont tenus de rendre des comptes.
Ils sont tenus aussi de rendre des comptes devant leur parlement, devant il y a des lanceurs d'alerte et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez des autocraties qui agissent de façon totalement débridée. Typiquement, vous avez le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est celui qui existe depuis les années 17, la fin de la guerre, pour avoir un peu d'humanité dans les conflits. Donc un symbole de la Croix-Rouge, ça ne se touche pas. Eh bien aujourd'hui, le CICR, la Croix-Rouge, a été, il y a un an, attaqué et tous les données qu'ils avaient ont été attaquées.
Oui, c'est justement, c'est ce que vous écrivez. On a le droit à la ruse, mais pas la perfidie.
La ruse, pas la perfidie, dans le droit des conflits armés. Mais le droit des conflits armés, pour voir, il faut qu'il y ait un état de guerre déclaré ou avec une zone d'opération. Vous avez le droit d'attaquer ceux qui participent directement aux opérations, mais pas, vous attaquez pas un hôpital, vous attaquez pas la production électrique d'une ville. Vous n'avez pas le droit d'impacter des choses qui vont atteindre les populations.
Alors, le véritable tournant, c'est 2015, je crois. Donc, il y a eu les attentats en France, il y a eu donc l'émergence de Daesh en Syrie, en Irak. C'est le moment, peut-être, où on prend aussi conscience de la nécessité de s'armer sur le plan informationnel, parce qu'il y a, grâce au numérique, des tentatives de recrutement de djihadistes un petit peu partout, en Europe, en France.
2015 était dans mon livre, apparaît comme une rupture pour deux raisons. Parce que la capacité a commencé à monter en puissance en 2011. Donc en 2011, j'ai mis un laboratoire, une expérimentation offensive. Puis à partir de 2012-2013, en contre-propagande, le défensif était en place. Donc 2015, c'est l'épreuve du feu, quoi. Parce que c'est les attentats en France, et après les attentats, il y a eu en janvier une grande marche avec plus, je crois, 3 millions de personnes qui ont déclenché des attaques informatiques de grande ampleur, mais de très faible niveau technique. 15 000 sites ont été attaqués, mais c'était du défacement, donc on met un drapeau.
Du défacement, c'est-à-dire que...
Défacement, c'est que vous mettez simplement un drapeau sur l'écran à la place du menu de la pizzeria du coin ou de l'image de l'Elysée, vous mettez... Donc c'est des attaques informatiques très très simples, mais qui ont un effet. Donc c'était une crise pour le ministère de l'Intérieur, pour l'ANSSI, c'était quelque chose de faible niveau.
L'ANSSI, l'Agence
nationale de sécurité des systèmes d'information, donc il y a eu ça. Après, vous avez eu TV5, qui était autre chose. TV5, c'est un signal pour moi du gouvernement russe ou gouvernement français.
Oui, mais qu'on a d'abord pris pour quelque chose venant de Daesh.
Oui, mais qui est aussi. Ça a été regranté par un groupe qui s'appelait Cybercalifat. Cybercalifat, vous ne l'avez jamais vu dans la mouvance de Daesh, vous l'avez vu contre des attaques contre les Américains, et c'est un groupe qui était assez proche du gouvernement syrien, donc syrien, russe. Il avait soi-disant volé des données de militaires français en opération. Il y avait des tas de listes de données qui avaient été trouvées. Il n'y avait pas une chose qui se rapportait à des militaires français. Et ensuite, il y avait un sabotage très bien fait de l'outil de production de TV5 qui allait jusqu'à un certain niveau de technicité, mais qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais ça montrait que c'était bien calibré. Ça prenait place au moment où la France a arrêté la vente des bâtiments de projection Mistral à la Russie. Voilà. Et ça correspondait aussi, comme je raconte dans mon livre, quelques mois avant, on a vu le patron des antivirus russes, Kaspersky, qui était vu voir un centre d'autorité, qui nous avait passé un message, moi je l'avais reçu en tête à tête. Oui, attention, les hackers russes vont être capables bientôt de faire des attaques en sabotage. Donc, quelques mois après, on a eu ça. Puis, est-ce qu'il était en mission pour délivrer un message à l'État, aux représentants de l'État français dont je faisais partie? Puis, il n'a pas vu que moi, il a vu un ensemble de gens. Ou est-ce que c'était le patron de boîte indépendante qui donnait la bonne tendance? Je pense que la vérité est dans les deux.
Entre les deux. Alors, comment s'organise à ce moment-là la contre-propagande? C'est là où vous commencez à recruter, à fabriquer ce qu'on appelle des avatars. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Il y a quelques anecdotes assez salées sur votre face. De rentrer en contact
anecdotes. L'image, c'était, vous aviez une propagande de Daesh en français. Il y avait de l'ordre de 3000 combattants de Daesh qui ont été recrutés dans les francophones et qui sont partis. Donc on était quasiment le deuxième contingent. Et cette propagande inondait bien sûr les théâtres d'opération pour terroriser les futurs combattants. La deuxième partie de cette propagande servait à récupérer des subsides et à faire venir les gens chez eux. Et puis la troisième, c'était des vidéos, des chants d'embrigadement qui poussait ce qu'on a appelé les loups solitaires à passer à l'acte. Cette propagande était complètement l'objet, elle partait de Syrie, elle était conçue, faite par des katibates de propagande, donc tous les attributs du droit du conflit armé, et elle déferlait sur l'Europe. Donc notre travail, nous, c'est pas de déradicaliser les gens, c'est pas du tout le travail militaire, mais nous, notre image, c'était de mettre en sport une sorte de bouclier qui empêche cette propagande d'atteindre sa cible, donc arriver à la repousser des réseaux sociaux les plus généraux, à la perturber, à leur faire faire des erreurs pour neutraliser les propagandistes du haut.
Mais jusqu'où est-ce que vous alliez? Parce que vous n'êtes pas non plus aussi en droit de vous substituer de vous faire passer pour des djihadistes.
Non, on n'a pas le droit de le faire, mais à force de rester en contact, d'avoir des avatars, de faire des provocations avec des faux documents ou ainsi de suite, il n'y avait pas de contenu, mais qui était pris sur des virus, ils vous amenaient à commettre des fautes de sécurité. Donc il faut vous remonter. Après, quand vous aviez les gens qui discutaient avec eux de choses diverses et variées, pouvaient, au fil des semaines, avoir la confiance d'un certain nombre d'entre eux et faire des fautes.
Alors, Daesh, ils avaient leur magazine et vous avez aussi fabriqué des fausses unes. Alors moi, je voudrais vous interroger parce qu'aujourd'hui, on a le problème des fausses unes inventées par les Russes. Est-ce que tout le monde pratique le même type de...
Non. D'abord, tout ce qui a été mis en ligne était vérifié par mes légats et j'en prenais la responsabilité. Donc, on était tout à fait conformes aux directives du code pénal. On était aussi conformes aux directives opérationnelles qui nous autorisaient d'aller jusqu'à un certain stade dans les ingérences ou dans les messages politiques qu'on ne faisait pas.
Voilà, justement, désinformation, vous ne faisiez pas. Vous faisiez autrement.
Non, je faisais autrement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'outil de propagande de Daesh. C'est pour ça que à cette époque-là, la chose intellectuellement est assez simple. On a un ennemi, on a des opérations, on a des théâtres d'opérations, on a des structures qui sont considérées comme des combattants au sens du droit, puisque c'est des katibates. Donc la structure, elle rentre bien dans le cadre des opérations militaires. D'ailleurs, c'était un axe fort de la coalition. Et quand les gens sur lesquels on tombait étaient sur le territoire national, on donne les éléments aux services de police qui lancent les enquêtes qu'ils savent faire. Et voilà, quand ils sont dans des pays étrangers, ça passe par la coopération avec les services avec les pays étrangers. Quand ils étaient au CHAM, au théâtre, c'était les forces sur place qui les traitaient.
Vous avez l'impression que vous avez réussi à éviter des recrutements?
Oui. Oui, éviter les recrutements, éviter les attentats, oui, j'ai plus le nom en tête, mais oui.
Alors comment est-ce que vous expliquez, puisque à la même époque était en train d'émerger cette désinformation russe, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui ils arrivent vraiment à être toujours très nocifs, à faire beaucoup de désinformation et vraiment à polluer extraordinairement les réseaux sociaux?
On est dans deux cas différents. Moi, je m'exprime sur ce que j'ai le droit de faire, ce qu'il a fallu faire dans un moment où il y avait des attentats, où la France était attaquée directement, y compris sur son territoire national, avec des morts et ainsi de suite. Et avec quasiment une coalition internationale, un ennemi unanimement désigné par l'ensemble quasiment des gens censés de la planète, et avec des coalitions avec des pays musulmans et ainsi de suite. Donc le cadre juridique était beaucoup plus clair, donc du coup le cadre d'action des militaires en uniforme est beaucoup plus clair. La désinformation russe est beaucoup plus vicieuse, puisque quand vous voyez les Wagner en Afrique, c'est pas des forces combattantes, c'est des mercenaires. Ils sont invités par le gouvernement local, donc c'est beaucoup plus flou. Les ingérences dans les élections, c'est pas directement revendiqué, revendicable. C'est beaucoup plus vicieux. Et c'est une façon de se comporter qui va être de venir au sein des démocraties pour affaiblir la résilience de ces démocraties et d'aller mettre du sel sur toutes les plaies ou de l'huile sur le feu, partout où il y a quelque chose, pour effectivement perturber, faire perdre confiance. C'est affaiblir. Il est clair, quand vous lisez les écrits de toute la mouvance Poutine, on est aujourd'hui son ennemi. Et la France est particulièrement visée parce qu'on a des intérêts en Afrique, parce que c'est une nation forte en Europe avec l'Allemagne. Et quand on est homme politique, on fait un certain nombre de déclarations ou ainsi de suite. Mais oui, leur but, c'est de fragiliser les élections, jouer sur les extrêmes et semer la haine et la discorde.
Lorsque vous étiez encore donc au sein de l'armée, vous avez commencé à constituer une réserve de cyberdéfense citoyenne. Est-ce que c'est à l'œuvre en ce moment ?
Non, on avait lancé ça en 2013, et mes successeurs en 2017-2020 n'ont pas continué, et elle est en train de renaître un peu de ses cendres en ce moment. L'idée, effectivement, on était en 2013, où les lois étaient en train de passer, et il y avait besoin de mobiliser beaucoup d'acteurs dans la société civile, donc on avait créé une réserve citoyenne à vocation interministérielle, avec l'image de la réserve des armées. J'en étais le patron symbolique, mais je l'ai piloté avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, la DGSI et la gendarmerie. Donc l'idée, c'était bien de pouvoir aller dans tous les départements, et puis chacun, selon sa vocation et sa mission...
Ça veut dire pour aider, voilà, par exemple, les hôpitaux...
Il y avait deux choses. Il y avait toutes les opérations de sensibilisation, typiquement avec le cybercercle. On avait créé un séminaire à côté de Toulouse, parce que Toulouse, c'était la zone d'expérimentation de tout ce qui était l'agriculture moderne, c'était la zone d'expérimentation de la Poste et du CNES. Donc là, on est très loin du militaire. Voilà. Et puis, on avait un certain nombre de députés qui étaient membres de cette réserve, donc qui s'étaient beaucoup intéressés au sujet, et qui, après, on leur donnait les éléments de compréhension, de clés, donc pour après voter les lois au Sénat et ainsi de suite. Il y avait quand même un certain nombre de députés qui étaient rentrés profondément dans les sujets. Et à côté de ça, effectivement, on avait monté avec Epitam pour regarder comment on pouvait récupérer des jeunes, puisque dans une crise informatique, vous avez l'attaque. Quand vous constatez l'attaque, il faut la comprendre. Là, vous faites intervenir des gens de très haut niveau. En nombre, ils sont en nombre limité. Généralement, ils seront dans leurs entreprises. Et vous ne pouvez pas les faire sortir de l'entreprise au moment où il y a une crise ou l'entreprise a besoin d'eux. Et par contre, pour reconstruire un réseau, là, vous avez booké beaucoup de bras. Et les bras, vous pouvez les trouver dans les écoles, chez les 4e, 5e année en informatique. Il faut redéployer un réseau encadré par leurs professeurs. Donc, on avait conçu ça avec Epita. Et on avait commencé à le lancer sur la région Bretagne, à différents endroits, et on associait des écoles à l'exercice annuel du commandant de la cyberdéfense qui s'appelle DEFNET.
Et aujourd'hui, vous présidez le pôle d'excellence cyber. Alors ça aussi, c'est un moyen de conforter la cyberdéfense française.
Totalement, parce que la cyberdéfense n'est pas quelque chose d'éminemment dual. Il y a une cyberdéfense au sein des armées, il y a une cyberdéfense en uniforme, mais il n'y a pas de cyberdéfense militaire. Il n'y a pas de missiles de croisière. Donc l'idée, c'était de mettre autour du ministère des armées un écosystème qui nous soit favorable en matière d'innovation, de compétences. Et pour ça, on a créé ça à partir de 2012. Et ça nous a accompagnés. On l'a créé à la fois avec des consommateurs de cyber, comme EDF ou La Poste. Voilà, donc c'était quelque chose qui était un écosystème qui soit favorable entre 120 et 130 membres aujourd'hui.
Merci beaucoup, Amiral Coustillière. Votre livre écrit avec Aude Leroy, journaliste spécialiste défense, s'intitule « Soldats de la cyberguerre » aux éditions Talendier. Cet entretien est réalisé dans le cadre de notre partenariat avec Géode, dont vous êtes membre. Géode, le centre de géopolitique de la datasphère. Cette semaine à Bruxelles se tenait la 5e conférence mondiale sur le cacao dans un contexte d'une hausse des cours inédite. Le prix du cacao, qui en tire les meilleurs bénéfices? Comme tout sujet de débat, il prête le flanc aux infox sur les réseaux sociaux. Alors, on part retrouver à Dakar Monique Ngomayak. Bonsoir.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
Alors, ce que l'on constate depuis quelques temps, c'est que le prix du cacao grimpe sur le marché international, mais reste très bas dans certains pays producteurs comme la Côte d'Ivoire, et cela suscite de fausses rumeurs.
Oui Sophie, les rumeurs et spéculations autour du cacao se résument à cette interrogation d'un internaute, je cite: le prix du cacao au Cameroun atteint des sommets à plus de 5000 francs CFA le kilogramme, tandis qu'en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, il stagne autour de 1000 francs CFA ou bientôt 1500 francs CFA. Comment expliquer cet écart? Fin des citations. Certains internautes n'hésitent pas à incriminer la France ainsi que l'Allemagne et la Suisse qui trouveraient ainsi moyen de se procurer des fèves à des prix défiant toute concurrence.
Déjà, cet écart dans le prix du kilo de cacao est-il bien réel, Monique?
Oui, nous l'avons vérifié. Le prix du kilogramme de cacao connaît effectivement une hausse inédite cette année. La tonne dépasse en ce moment même les 9 000 $ sur le marché boursier de Londres, soit plus de 5 000 francs CFA le kilogramme. Au Cameroun, cela varie entre 4 000 et plus. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, il était à 1 000 francs CFA en mars, avant d'être homologué à 1 500 francs début avril, après une grogne des syndicats des agriculteurs. Une différence de tarif que beaucoup qualifient d'injuste.
On comprend en tout cas que cela suscite le débat, mais qu'est-ce que la France, l'Allemagne ou la Suisse ont à voir dans cette affaire?
Rien du tout en fait, l'argument est fallacieux. En réalité, la taxation dépend du fonctionnement de la filière cacao dans chacun de ces pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement subventionne les planteurs et contrôle la production. Avant même la récolte, le cacao est vendu aux géants de l'industrie. Selon Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre ivoirien de l'Agriculture, cette vente par anticipation permet de pratiquer un prix stable. Ce prix garanti est censé réduire l'inquiétude des producteurs face aux fluctuations du marché international. Tandis qu'au Cameroun, le système est libéral. L'État est quasi inexistant auprès des cacaoculteurs. Par conséquent, sans intermédiaire, ils négocient les prix eux-mêmes directement avec les acheteurs.
Résultat, dans les conditions actuelles d'un marché dont les cours atteignent des records, le système libéralisé du Cameroun permet la vente à plus de 4000 CFA le kilo.
Absolument. Nous avons interrogé plusieurs producteurs camerounais qui se réjouissent de toucher gros pour une fois. L'un d'eux, Christian Gombe, voudrait d'ailleurs lancer la construction de sa maison avec les revenus de cette saison. Parce que depuis longtemps, le tarif maximal pour eux était à 1200 et a décliné à 800 francs, 700 francs CFA.
On comprend maintenant que ça pourrait faire des jaloux en Côte d'Ivoire et au Ghana, Monique.
Peut-être bien, mais les économistes que nous avons contactés relèvent des faiblesses dans les deux systèmes. Séraphin Praoyao propose par exemple qu'il soit moins rigide en Côte d'Ivoire et adapté aux fluctuations du marché international. Et pour le Cameroun, un autre expert pense qu'il est tellement libéralisé qu'il n'offre aucune garantie aux petits planteurs. D'après lui, l'intérêt pour la culture du cacao et même la qualité de la production en pâtissent.
Merci Monique Ngomayag. On retrouve votre travail de vérification plus en détail sur le site afp.factuel.com. Et merci à toute l'équipe du bureau de RFI à Dakar. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril, à la réalisation de cette émission. Pour les références et autres vérifications, vous pouvez nous retrouver en tapant InfoVérif RFI dans une barre de recherche. Sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info.
Radio France Internationale, dans 2 minutes, il sera 20h, 18h en temps universel. Avant cela, sachez que dans une demi-heure, ce sera Afrique Soir, l'essentiel de l'actualité du continent. Ce sera avec vous, Sylvie Perruet. Qu'y aura-t-il à la une?
Du sport à la une, Philippe. On va connaître ce soir l'affiche de la finale de la Ligue africaine des champions, puisque ce soir se jouent les deux demi. Mamelodi Sundowns face à l'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire face au tout-puissant Mazembe. La guerre au Soudan et l'étau qui se resserre autour d'El Fasher, au Darfour, dans l'ouest du pays. Humanitaires et diplomates redoutent un assaut imminent des forces de soutien rapide du général Emeti. El Fasher, qui est la dernière ville du Darfour, encore sous le contrôle des forces armées soudanaises du général Al-Burhan. Et puis on parlera aussi d'environnement et d'acier et de pollution, puisque l'industrie de l'acier représente à elle seule 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et nous verrons l'exemple de l'Afrique du Sud. Ce sera d'ailleurs le dossier d'Afrique Soir. Nous y reviendrons avec Jeanne Richard et puis notre invité. Sachez également que la boxe du Congo-Brazzaville est en deuil. Hardy Mambo est mort aux États-Unis dans un hôpital de Floride après être tombé dans le coma à la suite d'un chaos lors d'un combat.
Voilà tout cela donc à suivre dans un tout petit peu plus d'une demi-heure sur Radio France Internationale. Dans 30 secondes, un nouveau journal pour faire un tour complet de l'actualité du monde. Merci d'écouter RFI.